Chapitre 29. 19e arrondissement. Peu connu des Parisiens, le quartier d'Amérique abritait autrefois les carrières exploitant du gypse et des roches siliceuses. Il tenait son nom d'une croyance selon laquelle la pierre à plâtre que l'on extrayait du chantier aurait servi à la construction de la Statue de la Liberté et de la Maison Blanche. C'était faux, mais la légende était belle. Pendant les Trente Glorieuses, la majeure partie du faubourg avait été rasée pour faire place à la modernité. Des barres d'immeubles déprimantes et des tours hideuses défiguraient à présent le nord de l'ancienne commune de Belleville. Coincée entre le parc des Buttes-Chaumont et le périphérique, la rue de Mouzaïa était le dernier vestige d'une époque révolue. Sur plus de 300 mètres, l'artère desservait des impasses pavées bordées de réverbères et flanquées de maisonnettes avec leurs jardinets. Au 23 bis de cette rue, dans une petite maison de briques à la façade rouge, le téléphone sonna dans le vide pour la troisième fois en moins de 10 minutes. Constance Lagrange était pourtant là, allongée au creux d'un fauteuil ballon dans son salon. Mais la demi-bouteille de whisky qu'elle avait ingurgitée pendant la nuit la maintenait dans un état d'ébriété qui la coupait du monde. 3 mois auparavant, le jour de ses 37 ans, Constance avait appris 3 nouvelles, 2 bonnes et 1 mauvaise. En arrivant au travail le matin de ce 25 juillet, son supérieur hiérarchique, le commandant Sorbier, lui avait annoncé sa promotion au grade de capitaine de police dans la prestigieuse Brigade nationale de recherche des fugitifs. À midi, elle avait reçu un coup de fil de son banquier lui faisant savoir que sa demande de prêt venait d'être acceptée, lui permettant enfin d'accéder à son projet immobilier, l'achat de la maison de ses rêves, rue de Mouzaïa, dans le quartier qu'elle aimait tant. Constance s'était dit alors que c'était son jour de chance. Mais en fin d'après-midi, son médecin lui avait appris que le scanner qu'elle venait de passer avait révélé une tumeur au cerveau, un glioblastome de stade 4. Le pire des cancers, agressif, invasif et inopérable. On lui avait donné 4 mois. À nouveau, le téléphone vibra sur le parquet. Cette fois, la sonnerie se fraya un chemin dans son mauvais sommeil peuplé de sombres images de cellules cancéreuses. Constance ouvrit les yeux et essuya les gouttes de sueur qui perlaient sur son front. Elle resta prostrée plusieurs minutes, au bord de la nausée, attendant une nouvelle sonnerie pour tendre la main vers le sol. Elle regarda le numéro qui s'affichait sur l'écran. C'était celui de Sorbier, son ancien patron. Elle décrocha, mais le laissa parler.
« Qu'est-ce que vous foutez, Lagrange ? » engueula-t-il. « Ça fait une demi-heure que j'essaie de vous joindre. »«
Je vous rappelle que je vous ai remis ma démission, patron, » fit-elle en se frottant les yeux.
« Qu'est-ce qui se passe? Vous avez picolé? Vous puez l'alcool à plein nez? »
« Ne dites pas n'importe quoi, on est au téléphone. »«
Peu importe. Vous êtes saoul comme un Polonais, ça se sent d'ici. »«
Bon, vous voulez quoi ?» demanda-t-elle en se levant difficilement.
« On doit exécuter une commission rogatoire internationale émise par les autorités new-yorkaises. J'ai 2 ricains à coffrer sans tarder. Un homme et son ex-femme. C'est du lourd. Affaire de drogue, double meurtre, délit de fuite. »
Et pourquoi le juge n'a-t-il pas saisi la PJ de Paris?
J'en sais foutrement rien et je m'en balance. Tout ce que je sais, c'est que c'est à nous de faire le job.
Constance secoua la tête. C'est à vous. Moi, je ne fais plus partie du service.
Bon, ça suffit, Lagrange, s'énerva le commandant. Vous m'emmerdez avec vos histoires de démission. Vous avez des problèmes perso? Très bien. Je vous ai laissé tranquille 15 jours, mais à présent, arrêtez vos conneries.
Constance soupira. Pendant une seconde, elle hésita à tout lui déballer, le cancer qui lui bouffait le cerveau, les quelques semaines qui lui restaient à vivre, l'approche de la mort qui la terrifiait. Mais elle y renonça. Sorbier était son mentor, un des derniers grands flics à l'ancienne, un de ceux qu'on admire. Elle n'acceptait pas l'idée d'attirer sa pitié ou de le mettre mal à l'aise. Elle-même d'ailleurs n'avait aucune envie de pleurer dans ses bras.
Envoyez quelqu'un d'autre, pourquoi pas le lieutenant Botsaris? Pas question! Vous savez très bien que c'est toujours délicat avec les États-Unis. Je ne veux pas de problème avec l'ambassade. Vous me retrouvez ce couple et vous me le coffrez avant demain, d'accord?
Je vous ai dit non. Sorbier fait comme s'il n'avait rien entendu.
J'ai transféré le dossier à Botsaris, mais je veux que ce soit vous qui supervisiez l'opération. Je vous envoie une copie sur votre téléphone.
Allez-vous faire foutre? Cria Constance en raccrochant. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain pour vomir dans la cuvette un filet de bile. Depuis quand n'avait-elle plus mangé? Plus de 24 heures, en tout cas. La veille au soir, elle avait noyé sa peur dans l'alcool, prenant soin de ne rien avaler pour ressentir l'ivresse dès les premiers verres. Une biture express qui l'avait envoyée au pays des rêves pendant 15 heures.
Le salon baignait dans la belle lumière automnale de la fin d'après-midi. Constance avait emménagé dans la maison 3 semaines plus tôt, mais n'avait déballé aucune de ses affaires. Scellés par des bandes adhésives, les cartons de déménagement s'entassaient çà et là dans les pièces vides. À quoi bon, désormais ? Dans l'un des placards, elle trouva un paquet entamé de granola. Elle attrapa les biscuits, s'assit sur le tabouret du petit bar de la cuisine et fit un effort pour en grignoter quelques-uns. Comment tuer le temps en attendant que le temps nous tue ? De qui était cette formule déjà ? Sartre ? Beauvoir ? Aragon ? La mémoire lui faisait défaut. C'était ça d'ailleurs qui l'avait poussée à consulter. Elle avait bien eu d'abord quelques signes annonciateurs, des nausées, des vomissements, des maux de tête, mais qui n'en souffre jamais ? Son hygiène de vie n'était pas irréprochable et elle ne s'était pas inquiétée. Progressivement, elle avait eu des absences, des pertes de mémoire qui revenaient régulièrement jusqu'à la handicaper dans son travail. Elle devenait impulsive aussi, perdant peu à peu la maîtrise de ses émotions. Puis les vertiges étaient apparus, la décidant à aller consulter un spécialiste. Le diagnostic avait été aussi rapide que brutal. Sur le comptoir en bois trônait un épais dossier médical, compilation crue de sa maladie. Constance l'ouvrit pour la énième fois et regarda avec effroi l'image de son cerveau passer au rayon X. Sur le scanner, on voyait distinctement la tumeur énorme et les zones de prolifération cancéreuse qui avaient envahi la partie gauche du lobe frontal. Les causes de cette maladie étaient floues et personne ne pouvait dire pourquoi le mécanisme de division cellulaire devenait subitement chaotique et semait la pagaille dans son crâne. Livide, elle reposa le scan dans le dossier, enfila son cuir et sortit dans le jardin. Il faisait encore bon. Un léger vent frais bruissait dans les feuillages. Elle remonta la fermeture de son blouson, s'assit sur une chaise et croisa les pieds sur la vieille table en teck défraîchie. Elle se roula une cigarette en regardant la façade colorée. Avec sa marquise en fer forgé qui surmontait le perron, la bâtisse avait des allures de maison de poupée. Constance sentit que les larmes montaient. Elle aimait tellement ce jardin avec son figuier, son abricotier, sa haie de lilas, ses plants de forsythias et ses branches de glycine. Dès les premières secondes de sa visite avec l'agent immobilier, avant même d'entrer dans la maison, elle avait su que c'était ici qu'elle voulait vivre. Et peut-être un jour y élever un enfant. Elle en ferait son refuge, une enclave préservée de la pollution, du béton et de la folie des hommes. Dévastée par l'injustice de la situation, elle éclata en sanglots. Elle avait beau se dire que la mort était inéluctable et qu'elle faisait partie de la vie, impossible de ne pas craquer sous la trouille. « Pas si tôt, putain, pas maintenant !» Elle s'étouffa avec la fumée de sa cigarette. Elle allait mourir toute seule, comme un chien errant, sans personne pour lui tenir la main. La situation lui semblait surréaliste. On ne l'avait même pas hospitalisée. On lui avait juste dit « c'est fini, il n'y a rien à faire, ni chimio, ni radiothérapie ». Simplement des médicaments antidouleurs et la proposition de l'hospitaliser. Elle avait répondu qu'elle était prête à se battre, mais on lui avait fait comprendre que le combat était perdu d'avance. « C'est uniquement une question de semaine, mademoiselle. » Pronostic sans appel. Aucune perspective de rémission. Un matin, 15 jours plus tôt, elle s'était réveillée à demi paralysée. Sa vue était basse et trouble, sa gorge nouée. Elle avait compris qu'elle ne pourrait plus donner le change à son travail et avait présenté sa démission. Ce jour-là, elle avait vraiment su ce qu'était la peur. Depuis, son état alternait. Parfois, l'engourdissement était total et elle ne pouvait plus coordonner ses mouvements. D'autres fois, la paralysie était moins prégnante, lui offrant un répit qu'elle savait illusoire. Son portable vibra à l'arrivée d'une rafale de mails. Sorbier n'était pas décidé à la laisser tranquille. Il persistait à vouloir lui envoyer le dossier des 2 Américains. Presque malgré elle, Constance ouvrit les pièces jointes et commença à lire les documents. Le fugitif s'appelait Sébastien Larabi, son ex-femme, Nikki Nikovski. Elle passa un quart d'heure plongée dans le compte-rendu de leur cavale avant de brusquement lever les yeux de son téléphone, comme prise en faute. N'avait-elle pas des choses plus importantes à faire ? Ne pouvait-elle pas profiter du peu de temps qui lui restait pour mettre en ordre ses affaires, revoir une dernière fois ses proches ou méditer sur le sens de la vie ? Bullshit ! Comme beaucoup de flics, elle était accro à son boulot. Fondamentalement,
La maladie ne changeait rien à l'affaire. Elle avait besoin d'une dernière dose d'adrénaline. Surtout, elle cherchait un dérivatif à la peur qui la cernait de toutes parts. Elle écrasa sa cigarette et rentra d'un pas décidé dans la maison. Dans un tiroir, elle récupéra l'arme de service qu'elle n'avait pas encore rendue, le Sig Sauer réglementaire de la police nationale. En caressant la crosse en polymère du pistolet semi-automatique, elle retrouva des sensations familières et rassurantes. Elle rangea l'arme dans son holster, embarqua un chargeur supplémentaire et sortit dans la rue. Elle avait rendu sa voiture de fonction, mais il lui restait son coupé RCZ. Le petit bolide aux courbes limpides et au toit en double bosse avait englouti une bonne partie de l'héritage de sa grand-mère. En s'installant au volant, Constance eut une ultime hésitation. Était-elle capable de mener une dernière enquête? Allait-elle tenir le coup ou s'effondrer 100 mètres plus loin, rattrapée par la fatigue et la paralysie? Elle ferma les yeux quelques secondes et respira profondément. Puis elle fit rugir les 200 chevaux et ses doutes se dissipèrent.